With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
C'est passé dans le dos, le centre, d'où cave.
Allez,
second poteau, Pavard. Ah ah, Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je parle de sport, lorsque je pense au sport de manière générale, j'ai immédiatement en tête des images, des moments forts, incroyables, spectaculaires, en bien ou en mal d'ailleurs. Du coup de boule de Zidane en 2006 aux accélérations démentes de Mbappé lors du dernier mondial. Puis il n'y a pas que le foot. En tennis, en athlétisme, en rugby, on a tous en mémoire des instantanés complètement dingues. C'est sans doute ce qui explique la puissance en termes d'expérience collective du sport. Même dans le patinage artistique, c'est une réalité, et on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'interroger. Est-ce que le sport doit nécessairement être spectaculaire pour être populaire? Et si oui, à quel prix? Est-ce que ça doit aller jusqu'à mettre en danger la santé et la sécurité des athlètes pour nous filer à nous, spectateurs, toujours plus de frissons? C'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Oui!
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 Pour détricoter ce sujet, plutôt que de la théorie, nous avions envie d'entendre une parole pratique, celle d'un homme de terrain, sans mauvais jeu de mots, quelqu'un qui a suivi l'évolution du sport et de sa représentation au plus près. D'où l'idée de proposer au réalisateur de télévision Jean-Marc Lénoret de venir nous détailler tout ça. On peut dire qu'il a une petite expérience de la chose, puisqu'il a passé plus de 20 ans aux commandes d'équipes vidéo sur des événements sportifs aussi prestigieux que la Coupe du Monde de rugby ou le Tour de France. Et en guise de démarrage à cette discussion, je lui ai demandé tout simplement ce qui avait changé depuis ses débuts dans la manière de filmer et de montrer le sport.
La manière n'a pas changé, puisque c'est toujours une captation où l'on respecte les engagements cinématographiques, disons, le respect de la ligne, du raccord, du côté raccord. Ce qui a changé, ce sont les moyens, effectivement, puisqu'il y a une demande effective. Le spectacle grandit en restitution sur les télévisions. Au tout début, on se contentait de filmer en plan large un événement. L'événement suffisait par lui-même. À présent, il faut évidemment enrichir, multiplier les gros plans, les ralentis évidemment, les loupes, etc., etc.
Vous avez employé le mot spectacle, justement. Est-ce qu'il est plus spectaculaire, le sport, dans sa restitution en tout cas ?
Actuellement, si on considère que l'engagement physique est plus important, effectivement, c'est plus spectaculaire. Peut-être que la demande est dans ce sens-là aussi. Pour parler de rugby, qui est un sport de combat, la façon de restituer le combat est plus importante actuellement.
Et vous parlez d'engagement physique, l'engagement physique est plus important au rugby?
Oui, bien sûr. On n'a qu'à voir la différence de morphologie par rapport au sport amateur qu'était le rugby précédemment. Les morphologies donc ont changé. La musculation est très très importante dans la préparation des sportifs.
Est-ce que ça, c'est lié à l'évolution du sport en lui-même, ou est-ce que c'est lié aussi à sa représentation et donc à son succès grandissant auprès du public?
C'est lié au professionnalisme.
Oui.
Au tout début, le rugby étant amateur, les joueurs s'entraînaient trois fois par semaine peut-être. À présent, c'est deux entraînements quotidiens, plus la préparation physique, la fonte qu'il faut soulever, l'endurance, la rapidité d'intervention. Tout a évolué depuis que le sport est passé professionnel.
Et comment ça impacte ça, la manière de réaliser un match ?
Alors, il y a moins de temps mort, je dirais, puisque la condition physique s'est améliorée. Là où on avait beaucoup de temps pour passer des ralentis, puisqu'il y avait des périodes de repos, à présent, c'est beaucoup plus limité.
Il y a une différence d'échelle aussi, on l'a dit un petit peu. On ne met pas les mêmes moyens. Il y a plus de gens, plus de caméras, donc plus de choses à montrer aussi, j'imagine.
Plus de choses à... Non, il y a peut-être une demande supplémentaire d'antenne. Donc on prend...
Ce que vous appelez une demande d'antenne, c'est de la part de la part des antennes ?
Oui.
De la part des chaînes qui diffusent ?
Oui, on amplifie la durée d'antenne. On demande plus de préparation avant le coup d'envoi. Et puis on débriefe beaucoup plus derrière. Donc c'est l'amplitude...
En termes d'image ?
Oui, en termes d'image, qui a changé. Il y a des différences entre les chaînes spécialisées, disons Canal+, qui... C'est leur fonds de commerce, ils doivent respecter leurs abonnés. Donc ils prennent l'antenne évidemment très tôt, ils la rendent très tard. Par rapport au service public, qui a d'autres contraintes, on nous la reprochait assez souvent, l'antenne 3 minutes avant le coup d'envoi et qui rendait aussitôt derrière parce qu'il y a d'autres programmes derrière. Il n'y a pas que le sport sur le service public. Canal+ est obligé de respecter ses engagements et ses abonnés.
Je parlais de différences d'échelle, je pensais notamment à l'exemple de la Coupe du Monde de rugby. Je sais que vous avez couvert différentes Coupes du Monde, notamment réalisées après le signal international de la Coupe
en
du
2007,
Monde en 2007. Là aussi, les moyens avaient explosé entre les débuts et ce moment où vous avez réalisé, vous, cette Coupe du Monde.
C'est vrai. C'était la première fois que la Coupe du Monde a été disputée en France. C'était retransmis sur la plus grande chaîne, sans dénaturer les autres. Mais TF1 avait mis beaucoup de moyens, effectivement. Ça touchait un public beaucoup plus large, puisque par définition, le premier bouton qui s'allume, c'est TF1 sur les téléviseurs. Oui. Donc ça touchait un public plus large. On devait vulgariser un petit peu la chose. On ne s'adressait pas uniquement à des spécialistes. Il fallait attirer le plus grand nombre.
Comment on fait là pour attirer le plus grand nombre justement vers un sport qui n'est pas forcément aussi populaire que le football?
En étant plus didactique peut-être. Il y avait la consigne aussi aux commentateurs.
Aux commentateurs, oui. En image, ça,
et
passe,
en image
ça
également.
Passe par quoi du coup?
Je dirais respecter le sport et les règles et venir en complément de l'arbitre. Toujours pour parler de rugby, c'est un sport compliqué qui est... Les règles sont très difficiles à comprendre. Donc, coller aux commentaires pour expliquer telle chose, un hors-jeu, un en avant. Si on s'adressait uniquement aux entraîneurs ou aux fanatiques de rugby, ils se contenteraient du plan large.
Oui,
ils peuvent, de par leur regard, faire la différence. Nous, on fait un spectacle, tout de même, qui est retransmis à la télévision. C'est... on doit attirer les gens, spectaculariser le produit. Donc on doit multiplier les gros plans, on doit un petit peu dramatiser aussi pour faire un spectacle sportif. Quoi. On a un exemple dans le foot américain où les joueurs ne dépassent pas 45 ans.
Est-ce qu'un sport doit être spectaculaire pour être populaire ?
C'est une bonne question.
Celle que je vous pose.
D'une manière générale, pour être spectaculaire, il faut que le match ait du talent. Il faut qu'il soit enthousiasmant. Je lisais ce matin, les rugbymen se plaignent de la concurrence du football, mais ils s'en plaignent pas d'ailleurs, ils la subissent. La dernière Coupe du Monde l'a prouvé avec la France championne du monde de football. Les rugbymen en souffrent, puisqu'ils ne produisent pas le même jeu spectaculaire, donc ça n'attire pas les gens. Le Stade de France ne sera pas plein pour le match contre l'Afrique du Sud, ce qui arrive vraiment rarement dans un match international. Donc peut-être que le succès engendre le spectacle et vice-versa.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, en cherchant le spectaculaire justement, de mettre parfois en danger la santé des athlètes ? Je pense aux sports, certains sports américains auxquels on a reproché de vouloir chercher justement trop de spectacles.
Où tout est permis.
Et voilà, de laisser du coup trop d'espace à des blessures parfois très graves.
On avait commencé à reprocher ça au rugby également parce que... C'est le début du dopage. C'est, dans les sports américains, il y a beaucoup plus de liberté,
beaucoup, oui,
entre guillemets.
De ce point de vue-là aussi.
Oui, malheureusement, on voit les conséquences, quoi. Des sportifs qui ne dépassent pas 45 ans. Ça serait le danger du rugby, hein. Souvent, ce sport amène des blessures. Et le joueur, pour guérir plus vite, a tendance à... C'est dans cette période-là, d'ailleurs, que le dopage est effectif. C'est pour revenir au plus vite, au plus haut niveau.
Vous l'avez ressenti, vous, cet effet de recherche, justement, de succès public du côté des athlètes? Vous l'avez senti dans leur manière d'appréhender le sport, peut-être de se mettre un peu en danger, justement?
On a vu la métamorphose des joueurs. Je prendrai le cas de Thomas Castagnède. Bon, c'est mon époque aussi. Oui. Du temps où il jouait à Dax, il était maigrelet, disons. Il est allé en Angleterre, sollicité par les Saracens. Il a doublé de volume. Il est revenu, il était méconnaissable, pratiquement. Il était musculeux comme c'est pas permis. Malheureusement, les tendons n'ont pas suivi. Moi, j'ai filmé un match à l'échauffement contre l'Australie et il se pète le tendon d'Achille. Oui. Parce que les tendons ne suivent pas les muscles.
Et on pousse le corps dans ses retranchements, du coup.
Tout à fait.
À la recherche de ce spectaculaire.
Pour acquérir du volume, on pousse les muscles, mais il y a d'autres parties du corps qui sont plus fragiles et ça pète à ce moment-là.
Alors à ce stade de la discussion, un petit détour par un sport qu'on pourrait penser à milieu du rugby, mais qui sur ses aspects d'exigence physique n'en est pas si loin finalement. Le patinage artistique. Alors pourquoi le patinage? Eh bien parce que figurez-vous que chez Binge Audio, nous nous apprêtons à lancer dès lundi 19 novembre un podcast baptisé Hors Limite, dont la première saison va nous raconter le parcours exceptionnel de la patineuse Surya Bonaly. On diffusera d'ailleurs le premier épisode en avant-première demain dans Programme B. J'ai donc demandé à ma camarade Anne-Cécile Genre, qui signe ce podcast, de venir nous rejoindre et nous expliquer, pour en revenir à notre sujet initial, comment le parcours de Surya Bonaly est emblématique d'une des facettes de cette exigence du spectaculaire dans le sport de haut niveau, car une fois qu'elle a été mondialement connue pour son fameux salto arrière en JO de Nagano, on a exigé de Surya Bonaly qu'elle le reproduise jusqu'à l'usure totale.
En fait, les patineurs, une fois qu'ils ont terminé les compétitions, passent ce qu'on appelle professionnel. En fait, avant, ils sont considérés comme amateurs. Et en tant que professionnels, ils se font engager par des tournées, des spectacles, un peu comme Holiday on Ice, en France on connaît, bon, il y en a d'autres comme ça. Et elle avait comme gros argument pour se faire embaucher qu'elle savait faire un salto. Sauf qu'en fait, au bout d'un certain temps, évidemment, le corps s'use, quasiment tous les... un peu vieux, entre guillemets, patineurs continuent d'être en tournée, mais en fait se permettent de faire moins de tours, de sauter moins souvent, etc. Parce que souvent, on leur laisse un peu toute latitude pour choisir leur programme.
On part du principe que le public vient sur leur nom, et
exactement,
pas forcément sur leur performance extraordinaire.
Exactement. Et elle, elle a toujours tout donné aussi, parce qu'elle donnait beaucoup. Par principe, les gens se sont habitués à ce qu'elle fasse son salto. Et en fait, à partir du moment où elle a été blessée très grièvement, elle avait interdiction de le refaire.
Oui.
Et en fait, les producteurs qui l'avaient embauchée à ce moment-là ont vu qu'elle ne le faisait pas, l'ont laissé faire peut-être deux soirs, et puis au bout de deux soirées, lui ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe en fait, Surya ? Il faut sauter là. Et il faut faire le salto, les gens sont venus pour ça. » Et c'était ça où elle reprenait l'avion pour les États-Unis. Et du coup, elle a pris l'habitude de le faire à chaque fois. Enfin, elle-même déplorait qu'on n'accepte pas qu'elle soit juste vieillissante et qu'elle ait le droit de faire autre chose, quoi.
Quelles conséquences ça a eu sur son corps aujourd'hui, par exemple? Dans quel état est son corps aujourd'hui?
Alors, le salto, c'est quand même très violent parce que c'est un atterrissage.
Oui.
En plus sur un pied pour elle. Et du coup, c'est quasiment tout le corps qui prend et surtout le dos. Et elle a eu, je ne peux pas exactement dire le terme médical, j'ai pas envie de me tromper, mais elle a été opérée du dos, de plusieurs tumeurs bénignes un peu partout, sans compter des problèmes de genoux. Elle a aujourd'hui un genou qui fonctionne quasiment plus et c'est deux tendons d'Achille qui se sont cassés. Donc autant dire qu'elle est, elle est un peu cassée de partout.
Oui.
Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on lui a demandé de faire le salto alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est encore plus abîmée pour pouvoir rester dans la tournée et être payée à la fin, quoi. Et donc voilà, ça l'a complètement ruinée physiquement. Après, elle fait pas pitié à voir aujourd'hui parce que c'est une sportive de haut niveau et du coup tout le reste compense ces faiblesses là.
Justement, pour rester sur cette question du spectacle qui nous intéresse aujourd'hui, le patinage artistique, il est quand même devenu moins spectaculaire depuis justement l'époque où Surya Bonaly était au JO, depuis l'époque de Nagano et tout ça.
Alors, il s'est passé quelque chose en 2002, en fait. Le règlement du patinage a changé. Une des choses qui faisait que le patinage était très spectaculaire dans les années 80 et 90, c'est qu'il y avait des stars. Donc, on peut donner la définition de ce que c'est qu'une star par rapport à un sportif. Mais clairement, il y avait tout un travail fait par les fédérations pour monter des stars, vraiment. Oui. Et surtout, il y avait un suspense à la fin de chaque programme qui était les notes. Et les notes, c'était très politisé parce qu'en fait, on sortait de la guerre froide. Voilà, du coup, il y avait eu un suspense un peu des deux côtés, quoi. Il y avait la performance de la star et puis il y avait la note qu'on allait lui donner. Et ça a pris fin après la carrière de Souria, en 2002. Du coup, le système de notation est devenu beaucoup plus technique et beaucoup plus... Avant, il y avait une note artistique et c'était là-dessus que ça se passait, en fait, toutes les histoires de corruption et...
Il y avait un facteur humain qui était énorme.
Exactement. Et là, c'est devenu, donc pour éviter ça, suite à ce scandale en 2002, qui était aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, c'est devenu quasiment que du technique, mais alors, je ne peux pas donner les détails, mais c'était très mathématique, quoi.
Oui.
Et c'est devenu pour les juges très,
ça,
très
facile. Ça a été rationalisé énormément.
Exactement. Et surtout, du coup, les patineurs se sont mis à tous patiner de la même manière, en gros.
Parce pour rentrer dans ce canevas technique qu'on imposait.
Exactement. Et alors, paradoxalement, beaucoup de gens disent qu'avec ce système, Souria Bonaly aurait, car elle était très technique, elle aurait certainement été championne du monde. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais en même temps, du coup, comme il y a une uniformité du patinage aujourd'hui, tout le monde déplore le manque de stars, quoi.
Oui.
Parce que ça devient un sport, le patinage, un peu comme la gym, en gros. Et la gym, c'est tellement... prévisible, les notes, que j'ai vu que là, à partir des prochains Jeux Olympiques, il va y avoir une intelligence artificielle qui va assister les juges. Donc, c'est dire si...
Si le facteur humain,
voilà, le facteur humain disparaît vraiment. Quoi.
Totale. Et par exemple, paradoxalement, avec la disparition de ce facteur humain très grand, de cette subjectivité énorme qu'il y avait dans les jurys, par contre, le patinage a un peu, du coup, disparu des écrans, même s'il fait encore des gros scores pour les JO, mais c'est, on va dire, un peu structurel, il a quelque peu disparu des écrans médiatiques, sauf quand il y a des petits coups d'éclat.
Voilà, alors il y a eu notamment cette année un quadruple saut homologué pour la première fois par une femme, bon, alors que Souria Bonaly le faisait beaucoup, mais ça n'a jamais été homologué dans son cas. J'ai noté son nom, donc je vais le dire quand même, Alexandra Trouzova, voilà. Je crois qu'elle est très jeune, elle est russe, et il y a eu des petits clips YouTube qui ont circulé, et on a un peu parlé de patinage, ce qui en fait n'arrivait plus depuis des années. Et il faut vraiment ça, quoi, pour qu'on en parle. Et après, oui, c'est difficile de juger, je crois qu'il y a encore des gens qui regardent, mais il n'y a plus, ça c'est à peu près sûr, de stars, comme il y a pu y avoir Souria Bonaly, Philippe Candeloro, et puis peut-être le dernier, c'était Brian Joubert. Donc ces noms qui étaient des, comment on dit, des household names, des noms de, enfin, que tout le monde connaissait.
Dans... Oui. Même ceux qui n'avaient presque jamais vu les gens patiner connaissaient leur nom au moins.
C'était vraiment des stars. Enfin, on en revient à voilà, qu'est-ce qu'une star, qu'est-ce qu'un sportif. Et en gros, il n'y a plus aujourd'hui de stars. Après, je parle en étant très... je prends des pincettes parce que évidemment que quand on s'y connaît, il y a aujourd'hui des patineurs exceptionnels dans l'équipe de France et tout.
Du point de vue du grand public, bien sûr.
Mais voilà, du point de vue du grand public, il n'y a plus grand monde.
Jean-Marc Lénoret, est-ce qu'avec la multiplication des chaînes, des sources, des endroits où on peut suivre et voir le sport, est-ce que vous percevez une tendance à aller justement vers plus de spectacles, vers un besoin d'en montrer beaucoup plus pour attirer le public?
Oui, là, j'ai une opinion différente. Actuellement, les chaînes payent très cher les contrats qui les lient aux événements. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Champions, enfin, toutes les ligues. Mmh. Ils payent très cher ces contrats, donc ils ont tendance à un peu économiser sur les moyens de restituer, donc sur les moyens de retransmettre. Ça, c'est un peu la tendance actuelle, malheureusement. Sans dire pour ça que j'ai connu la période dorée, parce que chaque réalisateur vous dira ça. C'était pas comme ça... À mon époque, quoi. On respectait quand même les moyens de couvrir un événement, de restituer, de le mettre en valeur. Actuellement, je crois que la période est aux économies d'équipement et à la baisse du budget.
Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, justement, avec ce besoin de
Bien
faire
sûr.
Revenir du public?
Bien sûr, oui. Oui, oui. C'est malheureusement au détriment de la restitution. Ouais, c'est exactement ce que je pense, oui.
Thank you. qui est certain, et on terminera là-dessus, c'est que la manne financière, littéralement démentielle, que sont devenus certains sports, n'est sans doute pas étrangère à ce besoin d'en montrer toujours plus, d'en exiger toujours plus, parfois sans trop se soucier des conséquences pour les sportifs eux-mêmes. Merci à Jean-Marc Lénoret et à Anne-Cécile Genre pour leurs réponses. Ne manquez pas donc demain, vendredi, dans Programme B, la diffusion du premier épisode de Hors Limite, notre nouveau podcast consacré au parcours et à l'histoire extraordinaire de Surya Bonaly. Programme B, c'est une émission de Binge Audio préparée par Lauren Bess, réalisée par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.